Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Larzac et tout de suite, on retrouve le supplément d'agenda.
Le chantier sous la neige. On voit à droite sous la bâche noire la, les bottes de Pâques qui vont servir à isoler la toiture de cette partie. On se trouve en face de la buanderie avec un début de l'ossature de poisse qui va être le squelette de cet espace.
Au lieu-dit des Cunes sur le Larzac, une nouvelle construction s'apprête à voir le jour. Maison collective, autonome en énergie, construite presque exclusivement en matériaux naturels, le chantier est ambitieux. Il est porté par deux de ses futurs habitants qui veulent prouver que c'est possible.
Donc moi c'est Christophe et je suis arrivé sur le Larzac depuis un peu plus de 10 ans. Et donc j'ai rencontré Valérie qui était à l'époque permanent au CUNE. Voilà, moi l'ambiance dans cet endroit m'a beaucoup plu, j'ai bien accroché avec Valérie. On a décidé d'un commun accord après plusieurs années de vie commune sur le terrain, on n'est pas en couple, hein, de vie commune sur le terrain, construire quelque chose ensemble. Et voilà, le projet est parti un peu comme ça et aujourd'hui on est dedans et on fait une maison en bois paille.
Alors moi je m'appelle Valérie Boraz, je suis arrivé sur le Larzac en 1995 pour effectuer mon service civil en tant qu'objecteur de conscience au CUNE, chez mes voisins. Et je suis resté après et petit à petit je me crée ma propre activité en tant qu'artisan spécialisé dans l'électrification des sites isolés par le biais d'éoliennes, de capteurs solaires. J'ai construit une première maison en paille et la maison n'étant plus assez grande, j'ai eu le projet avec Christophe de construire une maison. Une fois qu'on a habité dans la paille, c'est difficile d'habiter dans autre chose. Donc je suis reparti sur un projet en bois isolation paille.
D'accord, donc cette maison, cette première maison, c'est celle-là où on est actuellement ?
Voilà, c'est une maison que j'avais construite à l'époque avec énormément de matériaux de récupération, avec en isolation de toiture de la laine de brebis brute. Les doubles vitrages, je les avais récupérés, j'ai fabriqué moi-même les châssis. C'est une maison qui m'est revenue à 3000 euros à l'époque. Je l'ai occupée en 2003. C'était aussi pour montrer qu'il y avait moyen de construire de manière écologique avec, et avec des matériaux de récupération sans forcément se ruiner. Cette maison était déjà autonome en électricité. À l'époque, on est raccordé quand même au réseau d'adduction pour l'eau et on récupère quand même toute l'eau de toiture pour alimenter les animaux qu'on a, plus le jardin.
Mais vous n'êtes pas relié au réseau électrique ?
On est complètement indépendant d'EDF et il n'a été jamais question de se raccorder. Ça, c'est pour moi aussi, en tant qu'artisan, une vitrine pour présenter mon activité pour que les gens qui ont le projet de devenir autonomes puissent se rendre compte de ce que ça représente d'un point de vue matériel.
Il y a quand même aussi Amaya, la troisième personne qui est dans le projet, donc qui est la compagne de Valérie.
Et les enfants.
Combien ?
Deux.
Et du coup, vous allez être en tout cinq dans ce logement. Et ça va être réparti comment ? Alors, si on peut réexpliquer un petit peu le principe de l'habitat participatif, comme tu disais tout à l'heure, les communs vont être communs, donc par machine à laver, cuisine peut-être. Comment vous avez pensé les choses ?
C'est la buanderie commune donc, qui sera entre les deux habitats. Elle, ça va vraiment se limiter à un local technique dans lequel il y aura aussi les toilettes sèches, le ballon d'eau chaude, et puis le congélateur, et puis un sas de rangement et un sas d'entrée. C'est tout. Après, on a vraiment chacun nos habitats distinctifs.
C'est pas communautaire.
Donc alors, pour ce nouveau projet, cette maison plus grande, t'es pas du tout en amateur. Si t'es déjà spécialiste en ramification autonome pour l'énergie.
Pour l'énergie, oui. Là, il n'y a pas d'un point de vue compétence, je pense qu'il n'y a pas de problème. En revanche, par rapport à la partie construction, on construit un bâtiment qui est quand même assez grand, qui fait 25 mètres de long sur entre 8 et 9 mètres de large, qui comprend deux logements avec un sas buanderie qui permet d'avoir du matériel commun comme machine à laver, plutôt que d'avoir chacun Ce propre matériel, on le met en commun, le matériel du style machine à laver, congélateur. Et ça permet d'avoir aussi, d'offrir un sas qui va desservir les deux logements. D'un point de vue compétence du chantier, c'est ça aussi qui est bien d'autoconstruire, c'est qu'on apprend aussi beaucoup. Moi, j'ai essayé de faire le plus de bêtises possible sur ce chantier pour pouvoir apprendre à partir de là et de réussir à ne pas reproduire les mêmes bêtises sur le chantier qui est beaucoup plus grand et qui pourrait avoir des conséquences. Mais j'ai encore beaucoup à apprendre, je m'en rends compte, et je passe beaucoup de temps à la maison, à lire, à discuter pour trouver les meilleures solutions, vu que ce n'est pas mon activité professionnelle.
C'est en cours d'apprentissage.
Voilà, mais c'est en bonne voie.
Et toi, Christophe, la construction, tu avais déjà quelques notions ?
Du tout. Moi, ma formation scolaire de base, c'est l'électricité mécanique. Donc non, en termes de bâtiment, construction, non, j'avais pas du tout de compétences en ce domaine.
Alors, d'un point de vue humain aussi, ce qui est important de préciser, c'est que par rapport au chantier, nous, on travaille, on va dire, au quotidien à deux sur ce chantier, mais on a besoin de l'aide ponctuellement d'autres personnes dans des phases qui sont soit très physiques, qui permettent de mobiliser aussi les voisins et de se retrouver entre voisins à construire, on va dire, construire le quartier. Nos voisins sont aussi acteurs de la construction de cette maison-là, et c'est, enfin moi en tout cas, ça me fait énormément plaisir de se retrouver aussi à plusieurs, à être voisins autour de quelque chose de commun. Et l'autonomie, c'est bien, mais c'est aussi bien d'avoir besoin des autres et de réussir à certains moments à faire des choses collectives. L'autonomie sans être l'autarcie, c'est-à-dire sans se couper des autres. La seule chose jusqu'à présent qu'on n'a pas fait nous-mêmes, c'est la zinguerie, c'est-à-dire tout ce qui est soudure sur les chenaux. Et il peut arriver que ponctuellement, par rapport à de la plomberie ou par rapport à deux, trois trucs, on fasse appel à des gens extérieurs, alors si possible, qui ont notre fibre. On va dire qu'on construit cette maison-là, c'est pas par passion, mais on est motivé, on n'est pas... Enfin, moi, je me sens pas salarié, ou je suis pas salarié, je travaille pas dans une entreprise. Il y a une motivation qui fait qu'en général, les gens qu'on sollicite, des professionnels ou même d'autres, ce côté un peu, j'allais dire marginal, un peu différent, ça les interpelle et ça leur plaît. Ce projet d'autoconstruction, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Et en général, les gens qui sont à l'initiative de ces projets-là sont moteurs, sont envie.
En quoi elle va être autonome, cette maison ?
Dans cette maison-là, dans laquelle nous sommes, on utilise déjà des appareils électriques qui sont déjà sobres d'un point de vue énergie, c'est-à-dire qui ne consomment pas beaucoup. On a aussi une manière de consommer raisonnée, et notre énergie est fournie par le biais de capteurs solaires et d'une éolienne. Cette énergie qui est produite et stockée dans des batteries et qui permet de la restituer après à la demande. On surproduit à l'heure actuelle de l'énergie parce qu'en même temps, cette installation nous permet d'alimenter le chantier en énergie électrique et pouvoir faire marcher les rabots, les scies circulaires, les ponceuses, tous les grosses bétonnières. Ça nous permet vraiment d'être autonome. Si on est vraiment juste en énergie, on a quand même un groupe électrogène de secours qu'on peut faire tourner, parce qu'on ne peut pas se permettre à certains moments de dire on ne va pas travailler parce qu'il n'y a pas d'électricité, parce qu'il y a eu trop de jours de grille d'affilée et pas du tout de vent. Ce qui a été le cas il y a une semaine ou deux. Ce qui veut dire qu'on va déclencher le groupe et on va le faire tourner pendant 2-3 jours. Mais c'est un groupe électrogène diesel qui va bientôt pouvoir tourner. Je vais le modifier pour le faire tourner à l'huile de friture. Pour être pareil, être autonome et ne pas dépendre d'énergie fossile et dépendre aussi des grandes firmes pétrolières. L'eau qui a servi pour réaliser les fondations, pour réaliser tous les bétons et qui va nous servir pour faire les enduits sur la paille, qui représente quand même quelques mètres cubes d'eau, provient uniquement de récupération d'eau de toiture, des toitures existantes. C'est une chose, on n'a pas utilisé jusqu'alors une goutte d'eau du réseau. Et voilà la citerne, en cours de construction. C'est un trou gigantesque qui fait 20 mètres carrés au sol, qui va faire à peu près 3 mètres, un peu plus de 3 mètres de haut. Donc toutes les autres toitures vont être récupérées, vont arriver ici. Et à côté, un peu plus loin, il y a déjà le trou qui est prévu pour la phytoépuration, pour l'épuration des eaux grises,
Nous utiliserons des WC secs et il ne nous reste plus que des eaux de grises, c'est-à-dire des eaux savonneuses à traiter.
C'est de quelle façon?
Par le phytoépuration, donc traité par une association de plantes.
Il y a donc ce projet de citerne de récupération d'eau de pluie.
Et... qui a priori servira à alimenter en eau toute la maison?
Ouais. Et la pierre qu'on a sortie donc, de ce trou, puisqu'ici c'est une région calcaire et qui est à 90% du caillou, donc cette pierre qu'on a sortie, on s'en est aussi servi pour faire ce qu'on appelle le hérisson de la maison, qui est la première partie isolante du sol, on va dire. Avant de faire un plancher, on met des gros cailloux directement sur le sol pour pas qu'il y ait des remontées d'eau par le sol. Mais on a quand même en secours une adduction d'eau. Mais à terme, l'idée, c'est quand même d'avoir effectivement cette autonomie en eau de pluie.
Et pour l'eau potable, vous avez une solution ou pas?
On boira l'eau de pluie, on utilisera un filtre de type charbon céramique.
Il y a aussi prévu un capteur solaire pour produire de l'eau chaude qui sera devant la construction.
Il va être couplé. Le chauffe-eau solaire avec, en hiver, un appoint avec le chauffage au bois qui fonctionne à la sueur de bois de récupération, pareil.
Donc maison ossature bois, paille.
Qu'est-ce que ça apporte de mettre de la paille dans les murs?
Déjà, c'est un matériau naturel. Ensuite, de par ses dimensions et son pouvoir isolant, ce qu'il faut savoir, c'est que les bottes de paille, on va les poser sur la tranche. Ça fait à peu près 35 cm d'épaisseur. C'est un pouvoir isolant à peu près, qui correspond à peu près à une trentaine de centimètres de laine de roche, laine de verre, laine de roche. Donc c'est un matériau qui est très isolant, c'est un matériau qui est respirant, et c'est un matériau aussi local. Et bon marché. Voilà, la première maison en paille qui a été construite en France, elle date de 1922, la maison Feuillette à Montargis, elle existe toujours, les bottes de paille sont en parfait état. Il y a quelques règles simples à observer pour être certain qu'il n'y ait pas d'humidité, de points de rosée qui se fassent à l'intérieur du mur, ce qui viendrait à abîmer la paille. Mais sinon, mis à part ça, la paille peut durer vraiment très très longtemps. En toiture, il y aura, chez Christophe, il y aura de la ouate de cellulose sur une trentaine de centimètres, un matériau qu'on achète, qui est du papier recyclé. Chez nous, ça sera des bottes de paille aussi en toiture.
Du coup, le budget total de la construction, enfin le budget prévisionnel.
Voilà, budget prévisionnel, donc aux alentours, on espère naviguer autour de 600 euros du mètre carré.
En comparaison, c'est pour une maison classique avec des matériaux classiques, c'est combien du mètre carré?
Oh là là, c'est beaucoup plus. C'est tout de suite plus de 1000 et puis ça peut monter très haut en fonction de... En fonction de ce qui est fait.
Nous, en autoconstruisant, il n'y a pas la main-d'œuvre non plus.
Donc on a un sol, déjà en partie isolé.
On a un sol, on a une ossature avec deux pignons en bois, avec des montants et des pannes. Les pannes, ce sont ces grosses pièces de bois qui vont accueillir les chevrons qui vont se mettre en travers et qui vont accueillir la panne faîtière qui va être tout en haut, là, qui va aller dans ces trous qui sont prévus. Qui va être une seule pièce de bois, là.
Sur l'autre partie, il y a déjà la toiture.
Il y a déjà la toiture, il y a déjà les tuiles, il y a même la sortie de poêle. On commence à l'envers, et par la suite, on va poser les fenêtres et les bottes de paille, et après, on va réaliser les enduits. On fait les maisons à l'envers, on commence par le toit, et on finit par les murs.
Et alors, au niveau de l'intérieur de la maison?
Isolation liège, sur les parties de la construction, il y aura du plancher en finition.
Et bien donc, il va isoler le sol de l'habitat du sol naturel. Moi, j'aurai donc une partie de tomette au sud. Tomette, c'est de la terre cuite. Donc le reste sera 30 mètres carrés de plancher bois, qui lui sera isolé avec du liège.
Sur une épaisseur de 17 cm.
Et qui correspondra à un volume total de un peu plus de 5 mètres cubes de liège. Donc le liège, pourquoi? Parce que c'est un matériau, encore une fois, c'est un matériau naturel, efficace, thermiquement et phoniquement, qui est imputrescible, qui ne craint pas l'humidité.
Ce qui est intéressant, c'est que le liège, on pourrait très bien l'acheter en vrac ou en panneau dans des magasins. Nous, de récupérer le liège, c'est aussi de vous montrer que le liège, que le bouchon de bouteille ou les chutes de chantier qui sont des déchets, Nous, on les voit autrement, on les voit comme des ressources. Bah, déjà, ça permet d'éviter le gaspillage en plus. Nous, on en profite. Et les gens, en mettant leurs bouchons de Liège de côté, participent à notre projet et se rendent compte aussi par eux-mêmes que ce bouchon, il peut servir à faire quelque chose d'autre. C'est un déchet, on transforme avec peu de moyens en ressources.
Où on peut déposer ces bouchons ?
Donc on a Mio, le marché paysan. Il y a aussi le marché de Sainte-Afrique, où il y a le stand de Véro qui produit un super yaourt, c'est le Yadou. Il y a également la Biocop de Sainte-Afrique. Pour les chutes, la récupération de chutes de Liège brut, vous pouvez me contacter pour les chutes de Liège au 06 17 65 14 52 pour les grosses pièces, pour les gros morceaux à aller chercher.
Revient à la maison, on a des gros tas de bouchons qui sont posés. C'est arrivé encore il y a 3 jours, des bouchons qui venaient de Bretagne, on a des bouchons qui viennent d'Espagne. Mais c'est vrai qu'il nous en faut une grande quantité. Le succès de ce type de collecte, c'est de s'y prendre suffisamment à l'avance. Nous, on sait qu'on va les utiliser d'ici 1 an et demi, 2 ans. Donc ça laisse le temps de récupérer encore un paquet. Ça donne envie, même au-delà de cette collecte. Moi, je suis en train de réfléchir à autre chose, vu qu'il y a une filière qui est en train de se mettre en place. Il y a des filières qui existent dans d'autres pays de récupération de bouchons liège en vue d'être valorisées pour de la construction, voire pour autre chose, pour faire la décoration, pour faire de la... Il y a plein de choses à faire et que l'aventure ne s'arrête pas uniquement à ce chantier-là.
Vous allez crouler sous les bouchons.
C'est génial, mais ça, on trouvera des débouchés, c'est sûr. C'est pas mal ça, des bouchées pour des bouchons.
La fin des travaux n'est pas planifiée. Valérie et Christophe se laissent le temps qu'il faudra pour rendre habitable leur maison autonome. Vos bouchons de liège sont toujours les bienvenus pour l'isolation du plancher.
De l'info, de l'actu, des rencontres, tout ça au gré de l'actualité locale. C'était votre supplément d'agenda sur Radio Larzac.